savoir plus, votre rendez-vous d'information avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais, chaque jeudi de 11h à midi sur Radio Plus.
Il faut savoir.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Savoir Plus. Cette semaine, on s'intéresse à la problématique des violences conjugales. Une problématique mise en avant très récemment dans le Grenelle des violences conjugales auquel plusieurs associations et structures de la région participent. En France, on estime que 219 000 femmes sont victimes de violences sexuelles et ou physiques de la part de leurs conjoints, ce qui représente 1% de la population. En outre, 3 femmes victimes sur 4 déclarent avoir subi des faits répétés et 8 femmes victimes sur 10 déclarent également avoir été soumises à des atteintes psychologiques ou à des agressions verbales. Concernant les féminicides, en France, l'an dernier, ce sont 121 femmes qui sont décédées sous les coups de leur conjoint sur un total de 149 personnes. En effet, l'an dernier, 28 hommes sont morts sous les coups de leur conjointe et 21 enfants ont également été tués dans le cadre de violences conjugales. Enfin, la région Hauts-de-France a malheureusement obtenu l'an dernier le plus haut taux de décès violents au sein du couple. C'est dans ce contexte que nous avons visité les locaux de Systémia, situés à Lens, une structure qui dépend de l'association Accueil Neuf de Cœur, qui héberge, elle, des femmes victimes de violences conjugales. Systémia comprend à la fois un centre thérapeutique traitant ces violences et un centre de ressources destiné à l'ensemble des professionnels pouvant être confrontés à des problématiques de violences conjugales. Découverte des locaux en compagnie de Laurent Lyotard, le responsable de Systémia.
Alors, donc ici, vous êtes à Systémia, c'est un lieu ressources violences conjugales. Lieu ressources violences conjugales, ça veut dire qu'on y a différentes activités avec différents professionnels. Là, cette première salle, voilà où on est, elle est dévolue à tout ce qui est thérapie. On reçoit des femmes, on reçoit des hommes, on reçoit des familles, on reçoit des couples, etc., etc. Ça va dépendre de ce que veulent les gens, ça va dépendre aussi du cadre juridique dans lequel on est, comment ça fonctionne. On y accompagne aussi des professionnels, c'est-à-dire qu'il y a des professionnels qui viennent aussi dans ces lieux pour réfléchir sur des situations qu'ils accompagnent de violences conjugales où il y a énormément de complexité. De toute façon, dès qu'il y a des violences conjugales, c'est absolument tout sauf simple la manière de travailler, puisque ça mélange un lien affectif avec de la violence, et c'est ça la difficulté du travail finalement. Donc vous avez cette salle-ci pour les thérapies, vous en avez une deuxième. Donc là c'est la deuxième salle de thérapie qui ressemble un petit peu à la première en plus petit. On va faire plus le travail individuel avec voilà, des femmes qui vivent des violences conjugales ou tournent à travail sur la reconstruction de soi. Des fois un simple travail sur faire le point où elles en sont dans leur vie. Nous, notre objectif, c'est de les aider à faire le choix qu'elles estiment être le meilleur pour elles, quitte à revenir en disant bah voilà, je me suis autorisé à essayer ça, mais je suis pas satisfaite de moi, je voudrais faire autre chose, etc., etc., etc. Donc ici, on a le secrétariat, l'accueil, avec les collègues qui reçoivent les gens. Alors, soit pour des rendez-vous, soit sans rendez-vous, pour tout simplement pouvoir parler de leurs difficultés qu'elles vivent à ce moment-là.
Et ce, c'est toute la journée ?
Alors, sans rendez-vous, c'est de 10h à 16h. Et là, on peut vraiment venir de 10h à 16h tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi. Par contre, bien évidemment, il y a des gens qui sont pas disponibles entre 10h et 16h. Et à ce moment-là, on a la possibilité de proposer des rendez-vous. Et cette fois-ci, ça peut être à n'importe quelle heure de la journée, le soir. Ça peut être même exceptionnellement pour des personnes qui seraient, par exemple, en déplacement. Ça peut être le samedi matin. La petite salle d'attente qui permet voilà, aux gens, souvent qui arrivent un petit peu en avance, de pouvoir se poser avec le petit point convivial, qui est toujours sympa, qui est plutôt dévolu aux enfants, mais on voit bien que les adultes aiment bien aussi.
Allô.
Alors, dans une toute autre ambiance, là, on est dans la cour de Systémia, qui est un lieu qui permet aux gens de prendre l'air des fois en attendant, mais qui est aussi un lieu de manifestation. Par exemple, on organise la campagne du ruban blanc du 25 novembre au 6 décembre. C'est ici qu'on va y faire une partie des activités qu'on va essayer de rendre médiatiques pour qu'on puisse parler du sujet. C'est aussi un endroit d'expression artistique. Donc on voit que l'arbre est encore à moitié habillé de tout ce qui s'est fait l'année dernière. Il va être retravaillé cette année. Et puis vous avez les murs qui permettent des fois de proposer des mosaïques, des expos photos, etc. Et on fait tout ça en intérieur sur la cour, en lien avec l'autre service qui est le CHRS Accueil Neuf de Cœur, où là, il y a énormément d'activités aussi qui sont proposées pendant toute cette semaine. Des activités qui sont aussi offertes en co-construction avec l'ensemble des mairies de l'arrondissement de Lens, et des fois même au-delà. Alors, ici, on est à l'accueil de jour qui est porté par l'association Accueil Neuf de Cœur. Donc, l'accueil de jour, c'est un dispositif particulier. C'est un dispositif qui est porté par l'État, financé par l'État, qui est en fait donc national. Il y a différents accueils de jour. Encore sur le Pas-de-Calais, certains sont en train de s'ouvrir. L'accueil de jour chez nous, en fait, c'est un espace qui est proposé aux femmes victimes de violences conjugales pour pouvoir faire énormément de choses qui vont de ne rien faire, c'est-à-dire venir se poser, prendre un peu de temps pour elles, éventuellement avec leurs enfants, pouvoir manger, se doucher, bénéficier de casiers où elles peuvent stocker des affaires personnelles qu'elles ne souhaitent pas laisser traîner à la maison, ça peut être des photos, des bijoux, les papiers d'identité, etc., les demandes de logement, voilà. Ça peut être des fois un petit peu de vêtements au cas où il faille partir au dernier moment. Donc il y a toutes ces prestations, il y a aussi la possibilité de rencontrer une professionnelle. Donc là il y a deux collègues actuellement qui travaillent sur l'accueil de jour. Donc ces professionnelles là, elles vont en gros essayer de construire avec la dame le parcours qu'elle souhaite mettre en place. Donc ça peut être une aide à la décision de quitter le domicile, ça peut être une aide à retrouver du logement avec la possibilité de bénéficier de logements en urgence, d'hébergement en urgence, la possibilité de d'avoir un lieu d'écoute, une aide administrative à remplir des dossiers. La mise en lien avec d'autres dispositifs, d'autres professionnels, puisqu'à l'accueil de jour, on a la chance aussi de pouvoir bénéficier de, finalement, une des missions de l'accueil Neuf de Cœur qui est référent violence conjugale. Donc ça, c'est ma fonction à moi. Cette fonction-là consiste à mettre en lien le plus de partenaires motivés et possibles autour de ces questions-là. Donc c'est bailleurs publics, c'est les élus, ça peut être les CCAS, le conseil départemental, les différentes associations, mais bien évidemment tous les services étatiques, c'est-à-dire tout ce qui est justice, police, etc., etc. Bref, l'ensemble de manière interdisciplinaire. Aujourd'hui, on a à peu près 200 à 300 professionnels qui gravitent dans le réseau. Ça englobe plus d'une quarantaine d'institutions. Et l'intérêt est double, du coup, parce que les personnes peuvent avoir un point unique qui est l'accueil Neuf de Cœur pour se poser. Et comme chaque situation est unique, chaque situation est complexe, à ce moment-là, elle peut bénéficier de toute cette mise en réseau et de pouvoir avoir une professionnelle ici qui connaît bien le réseau, puisque forcément il est animé par nous. Pour l'accueil de jour, vous êtes ici dans la salle qui est qui sert à faire des fois un entretien, qui permet aussi grâce au clic-clac de pouvoir simplement des fois se reposer, s'allonger. Vous avez la salle de bain qui est là. Vous avez bien évidemment l'armoire avec les jouets qui permettent aux enfants, une télévision parce que des fois c'est aussi intéressant pour que les gens puissent changer les idées, même les enfants puissent avoir des dessins animés, des choses comme ça. Et vous avez également de l'autre côté. Voilà, là c'est le bureau de l'accueil de jour. Donc vous voyez, il y a trois pièces, il y a une salle de vie, une salle un peu de repos sous forme de salon avec la petite salle de bain à côté, et puis ce lieu-là qui est en fait le bureau administratif où les gens peuvent se poser avec les collègues, et puis là on va être sur des recherches de éventuellement d'accompagnement juridique, des recherches de logement, des recherches de plein de choses différentes, parce que finalement on a des demandes multiples, diverses et variées, qui peuvent aller jusqu'à prendre soin de soi, qui peuvent aller à conduire une personne à l'hôpital, au commissariat, etc. Et comme il y a ce travail en réseau, On a des personnes ressources et au commissariat grâce à une cellule particulière qui est développée au commissariat de Lens. On a aussi la possibilité au niveau de l'hôpital d'avoir des liens particuliers. Et dans les MDS, on a toute une palette de professionnels qui viennent nous proposer éventuellement un soutien en termes administratifs, en termes de ressources, etc., etc. Et bien évidemment, le tissu associatif, les communes, etc., etc. Et la sous-préfecture qui est un partenaire essentiel puisque maintenant, on a la chance d'avoir la possibilité d'accéder à du logement prioritaire grâce au contingent. Et ça permet vraiment de trouver des solutions rapides de mise à l'abri ou en tout cas de relogement pour éviter à des personnes de continuer à retourner au domicile quand elles ne le souhaitent pas. Et si jamais ces personnes souhaitent tout de même retourner au domicile, il y a la possibilité de se rapprocher de tout ce qui est au niveau du parquet pour proposer éventuellement un éloignement du conjoint violent. Et si, encore une fois, ça peut être une proposition de la personne de dire « mais moi, je voudrais que les violences s'arrêtent et pas forcément finalement mon couple », et ben là, il y a aussi des possibilités de proposer un espace pour monsieur, voire un espace pour le couple si besoin.
Ça veut dire combien de places aujourd'hui ?
Alors nous, on n'a pas de place, c'est-à-dire qu'on a on fonctionne un petit peu finalement comme un service d'État ou un service municipal ouvert, c'est-à-dire on reçoit des gens, on leur propose des rendez-vous en fonction de leurs demandes ou éventuellement on les accueille directement dans le cadre de l'accueil de jour, voilà. Par contre, on s'appuie sur l'ensemble des partenaires. On a la chance aussi de faire partir de la même association Accueil Neuf de Cœur et du coup, on va avoir des places d'hébergement. Et là, on est sur plus de 90 places d'hébergement. Je vais dire des bêtises parce que c'est la collègue qui maîtrise mieux, avec des places qui sont vraiment dédiées à l'hébergement en urgence des situations de violence conjugale et aussi des accueils d'urgence, c'est-à-dire que sur l'heure même, il peut y avoir la possibilité de pouvoir bénéficier d'une chambre dans un système de nuitée d'hôtel, chambres qui sont à côté d'ici, qui sont sécurisées par la surveillante de nuit, avec les collègues qui sont présents pour éventuellement faire du lien. Et tout ça s'articule dans l'intérêt le plus fort possible de ce que la personne souhaite pour elle à ce moment-là, sachant que même ses souhaits peuvent évoluer. Elle peut dire « je ne pars pas », échanger d'avis et partir. On va bien évidemment accompagner tous ces projets. Nous, notre priorité, c'est d'essayer d'accompagner ce que veut la personne, même quand c'est compliqué, même quand elle est dans une certaine ambivalence, même quand elle est perdue, même quand elle hésite. C'est-à-dire d'apporter le plus de soutien, le plus de protection, le plus d'encadrement, mais sans jamais être tenté de décider pour elle parce que ben nous-mêmes on est un peu choqués par ces violences, on voudrait plus se mettre à l'abri, on voudrait aller plus vite qu'elle. On a remarqué que il est important d'aller au rythme des personnes pour pas les perdre parce que sinon elles ne reviennent pas. Et c'est intéressant parce que depuis maintenant plus de 10 ans qu'existe Systemia, nous avons vraiment un public voilà qui s'installe, qui est dans un accompagnement de longue durée et on a énormément de suivis qui finissent finalement par aboutir à des solutions de sortie des violences, quelles que soient les solutions qu'ont souhaité ces personnes. Et puis dans ce bureau, vous avez aussi cette bibliothèque avec pas mal de livres, mais aussi sur le côté des outils pédagogiques, des outils éducatifs, même des outils thérapeutiques. C'est ce qu'on essaye de développer en parallèle dans le lieu ressources, c'est-à-dire un centre de documentation. Ça, c'est ouvert aux professionnels, ça peut être aussi prêté à des personnes qui seraient dans le bureau et qui repèrent les bouquins. Mais c'est notre cible, finalement, c'est les professionnels, parce qu'on s'est rendu compte maintenant depuis... pour l'association, ça fait 30 ans qu'elle œuvre sur la lutte contre les violences conjugales. Systemia n'a une existence que de 10 ans, voilà. Et ça fait donc 10 ans que ce sujet-là devient le sujet prioritaire, en tout cas pour Systemia. On s'est rendu compte que c'était important d'accompagner les professionnels à prendre confiance en soi, à s'autoriser à travailler ces questions-là, parce qu'elles ont trait à l'intimité, parce que encore une fois, c'est des situations très complexes. Et du coup, on propose de la matière en termes de documents, d'outils, mais on propose aussi des espaces d'intervision et de supervision. C'est en gros des espaces où on réfléchit ensemble pour rendre les choses plus efficaces, mieux travailler. On propose aussi énormément de formations, des sensibilisations. On propose des colloques, des conférences. En novembre, l'année dernière, à Noyelles-sous-Lens, on a fait une conférence sur l'enfant au cœur des violences conjugales. On a été un petit peu victime de notre succès, puisqu'on a eu plus de 450 demandes de place pour une salle qui en contenait 300, avec beaucoup de retours positifs. Malheureusement, on a frustré 150 personnes. On est déjà sur la mise en place de réflexion d'un colloque qui aura lieu certainement le 2021, le temps d'organiser tout ça et de trouver des intervenants de qualité. Bref, on n'hésite pas à parcourir différentes choses et on arrive à faire tout ça d'abord parce que l'association se mobilise énormément autour de ça et également parce qu'on a un tissu de partenaires très très présent, très très fort. Par exemple, le colloque, il a été porté autant par l'association Accueil Neuf de Cœur que par les membres du réseau qui sont venus, qui ont pris du temps sur leur temps de travail, qui ont eu l'autorisation des institutions pour passer une journée à ce colloque, non pas être assis dans la salle, mais organiser les accueils, organiser les temps de pause, organiser la fluidité de ce travail, etc., etc. Pendant des mois, on s'est réunis pour travailler là-dessus. Bref, on a la chance, nous, sur notre arrondissement, d'avoir une énorme énergie, une très belle énergie qui permet de prévenir et lutter contre ces violences, ce qui, je crois, nous fait énormément avancer tous ensemble.
Vous êtes toujours sur Radio Plus dans l'émission Savoir Plus et cette semaine on s'interroge sur les violences conjugales et on vous propose de découvrir Systemia, un centre ressources et lieu de thérapie consacré à ces violences et situé à Lens. Laurent Lyotard nous explique à présent ses différentes missions au sein de Systemia.
Je suis responsable de Systemia, c'est-à-dire que c'est moi qui organise un petit peu le fonctionnement de ce service en termes de fonctionnement d'équipe, hein, comme serait un chef de service. Ça, c'est une première fonction. La deuxième fonction, c'est que je suis thérapeute en individuel, couple et famille sur différents domaines. Systemia, bien évidemment, sur les violences au sein du couple, avec tous ces couples qui sont dans des conflits dans lesquels ils ne sortent pas, dans des mésententes conjugales qui créent, qui créent des violences, qui créent des passages à l'acte, qui créent malheureusement des meurtres ou des atteintes graves, qui créent aussi du harcèlement psychologique, du harcèlement financier, enfin bref, tout ce que finalement la société connaît de ces situations de couple qui se déchirent et qui sont dans des relations toxiques. Donc nous, on va travailler beaucoup sur ces couples qui sont dans une difficulté à vivre ensemble, mais donc ils ont la volonté de vivre ensemble. Et on va travailler également dans les violences conjugales, dans les situations où il va y avoir une espèce de d'emprise de l'un sur l'autre. Là, on va travailler beaucoup à essayer d'aider la personne qui est sous emprise à sortir de l'emprise, sachant que de toute façon, on ne verra jamais l'autre, puisque les personnes qui sont dans des dynamiques où elles veulent mettre leur conjoint ou leur conjointe sous emprise ne vont jamais venir voir un professionnel qui va finalement faire un contre-travail, c'est-à-dire les empêcher. Au contraire, elles font tout pour empêcher l'autre de venir, ou elles font tout pour ne pas être présentes, etc., etc. Donc nous, on a finalement différentes entrées, avec, de manière un peu caricaturale, ces deux entrées-là, c'est-à-dire ces couples qui souhaitent continuer ensemble, mais qui ne savent pas... Alors on voit beaucoup de jeunes couples, là, comme ça, qui ne savent pas comment être couple, qui sont finalement un petit peu bercés par ce que moi j'appelle le syndrome Walt Disney, c'est-à-dire que... Finalement, on est bercé par toute une histoire, alors qui commence à évoluer heureusement, hein, grâce à un travail de beaucoup de personnes, mais sur l'histoire que ils se marièrent et vécurent heureux. Quand ils se marient, ils commencent tout un travail pour essayer de vivre à deux. Je pense que cette génération-là est en train d'essayer de composer avec ça, avec l'idée que le mariage a évolué, puisqu'avant on se mariait parce que les familles le souhaitaient, parce que la société avait tendance à réunir, on se mariait entre instituteurs, ou on se mariait entre paysans pour réunir les terres, ou entre ouvriers parce que c'était la même classe sociale, ou entre mineurs, hein, pour ce qui est ici notre secteur, parce que on était des ouvriers qualifiés, un peu supérieurs, et qu'il n'était pas question qu'on se mélange avec ceux qui fabriquent les briques, ou etc., etc. Bref, il y avait quelque chose de très sociétal qui a énormément bougé depuis les années 80, ou finalement, alors probablement peut-être après mai 68, quand il y a eu cette vague de liberté, cette contestation de l'autorité sociétale avec tout ce qui s'est passé. Depuis, on est en train de d'essayer d'être plus libre. Et dans cette liberté, on a fait chuter le nombre de mariages à un moment donné. Les gens se mariaient plus, il y a eu du concubinage. L'État s'est inquiété de ça parce qu'il fallait cadrer, on a inventé le Pax. Et tout ça a fait évoluer la manière de vivre en couple, c'est-à-dire que finalement... Avant mai 68, le couple n'existait pas, puisque finalement, on réunissait deux personnes de sexe différent et on faisait un mariage civil et religieux avec un seul mandat, c'était de faire famille. C'est pour ça que dans les mariages, à la mairie, on donne un livret de famille. On donne pas un livret de comment vivre en couple, on donne un livret de famille dans lequel il faut remplir les cases, c'est-à-dire y mettre des enfants, puisque la société n'a qu'une seule volonté, c'est de perdurer, donc d'avoir le renouvellement des générations, de la main-d'œuvre, etc., etc. Ça, c'est très bien décrit par tous les sociologues. Je pense que là, on est vraiment en plein virage, nous, et que finalement, les gens essayent de se marier pour une drôle d'idée, c'est d'être heureux. Hein, c'est le syndrome Walt Disney. C'est une manière d'être heureux quand on n'arrive pas à s'en sortir dans la société. C'est d'essayer de trouver en l'autre quelque chose qui va nous combler. Sauf que c'est un pari très difficile, très risqué. Et de là, ces histoires d'amour où les gens sont pas dans une emprise réelle de l'un sur l'autre, même si de temps en temps ça peut exister, mais sont plutôt dans une espèce de... On essaye de vivre à deux, on n'arrive pas à régler les conflits, on n'arrive pas à se parler. Dès qu'il y a un problème, ça prend tout de suite de l'ampleur, ça crée des escalades, de disputes, on finit par se balancer des noms d'oiseaux, voire on finit par exercer la violence, voire etc., etc. Des couples finalement... qui sont effusionnels à la fois et en incapacité d'être à deux. Donc ça, c'est une grande partie du public qu'on trouve à Systémia, parce que malheureusement, ces personnes-là ne trouvent pas de réponse ailleurs. Puisque dans les cas de violence conjugale, la préconisation, c'est la séparation à tout prix, et que ces gens-là ne veulent pas se séparer, ils veulent continuer à essayer de vivre à deux, et quitte à continuer avec la violence. C'est pour ça que, voilà, nous, on est sur deux champs différents. Ce champ où on va recevoir en immense majorité des femmes qui cherchent des solutions de sortie du couple, des protections, qui sont voilà dans des choses compliquées. Là, il va y avoir un travail individuel, il va y avoir l'accueil de jour, il va y avoir des thérapies individuelles, on va prendre en charge les enfants, on va essayer d'accompagner tout ça. Toujours avec la dame au cœur de son projet, c'est elle qui prend nos outils et décide de comment elle fonctionne dedans. À charge à nous de s'adapter le plus possible, hein, voilà. Et puis on va avoir une autre partie du public, c'est ces gens qui finalement sont, malgré la mise en prison, malgré la pression de la famille, malgré la pression des amis à la séparation, malgré la pression des institutions, des travailleurs sociaux, la menace de placement des enfants, continuent à essayer de vivre ensemble, continuent à se maltraiter, à être dans des conflits, des mésententes qui créent énormément de violence avec des choses vraiment très graves, hein, finalement. Et l'idée, c'est de dire, nous aussi, on a décidé de s'adapter à ça en disant, ce public particulier-là, on va également le prendre en charge et on va essayer de réinjecter finalement de la parole, ce qui a pour effet des fois de les aider à se séparer, c'est-à-dire qu'ils arrivent finalement à faire le bilan qu'ils sont pas faits pour vivre ensemble. Alors c'est intéressant parce que du coup, ils se séparent de manière travaillée, ça évite, quand on oblige les gens à rompre, on crée quelque chose de très violent et il peut y avoir une réaction contre-violente forte. C'est pour ça qu'il y a un tiers des homicides qui ont lieu après la séparation. Hein, c'est ces chiffres-là qui nous ont fait réfléchir. On s'est dit, mais si on veut vraiment aider ces femmes à être dans quelque chose de tranquille et ces hommes à être dans quelque chose d'apaisé, il va falloir qu'on réfléchisse à ça parce que des fois, nous-mêmes, si on sépare de force, on peut créer ça, on peut créer une réaction violente en face. Donc l'idée, c'est la séparation, c'est important, il faut qu'elle soit actée, il faut que la loi fasse son boulot, ça c'est très important. Il faut qu'il y ait des juges, il faut qu'il y ait des policiers, il faut qu'il y ait des gendarmes qui disent stop, qui agissent, et charge à nous, dans un autre temps, à un autre moment, de venir vérifier dans quel type de relation sont ces gens, et si c'est pas une relation d'emprise, si c'est pas quelque chose de très déséquilibré avec quelqu'un qui veut absolument dominer et quelqu'un qui est dans une posture ou de soumission, à ce moment-là, nous, on va, si c'est ce cas-là, on va essayer de tisser un accompagnement pour sortir cette personne qui a envie de sortir de ce système de soumission. Si par contre on est dans un fonctionnement plus de couple anarchique, de couple où il y a de la violence pour un oui, pour un non, où chacun est capable de jeter un litre d'essence sur le feu, etc., etc., à ce moment-là, nous on va agir pour les aider à s'apaiser, soit à se reparler autrement, puis charge à eux de prendre en charge leur projet de couple, qui peut être de se séparer, ça c'est une partie des choses qui arrivent. Certains essayent de refonctionner ensemble, certains fonctionnent ensemble, etc., etc. Mais c'est à chaque fois ici, ce sont les gens qui vont décider, dans le respect de la loi bien évidemment, mais qui vont décider de leur cheminement. Ma station, ma région,
ma passion. Laurent Lyotard, est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler comment s'est créé Systémia ?
Ah oui, bah c'est une histoire assez intéressante finalement. Systemia s'est créée sur mon expérience, c'est-à-dire que pendant des années, j'ai travaillé dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, qui accompagnait des femmes et des familles. Et forcément, dans ces CHRS-là, on est confronté aux violences conjugales. C'est une grande partie du public, c'est-à-dire que ce sont des centres d'hébergement qui accueillent toute personne qui se retrouve sans logement. Et là-dedans, vous avez des dames qui sortent d'hospitalisation mais qui n'ont pas de soutien familial. Vous avez des jeunes filles qui quittent leur famille ou qui sont jetées à la rue par leur famille parce qu'elles sont jeunes majeures et soit c'est trop conflictuel, soit il y a des soucis de dépendance, etc., qui créent de la violence, donc un départ. Soit ce sont des femmes qui sortent de prison, ça c'est une petite partie du public, donc vous avez des dames qui finissent leur peine de prison, qui se retrouvent pareil, sans soutien, elles peuvent être hébergées en CHRS. Et puis, pour quand même une grande majorité, vous avez des femmes qui vivent des violences au sein de leur couple, dans leur maison, et qui, finalement, pour que la violence s'arrête, pour des fois se protéger, des fois protéger leurs enfants, souvent un mélange de tout ça, vont solliciter le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et moi, je suis arrivé jeune professionnel dans ce centre de réinsertion sociale. Et à ce moment-là, ce que j'ai rencontré, c'est des situations compliquées où l'équipe pouvait avoir peur éventuellement du fait qu'un homme pouvait venir rechercher sa femme en étant très véhément, en étant très énervé, et ce que ça créait quand une collègue se retrouvait le soir, le dimanche soir, seule à gérer le centre de réinsertion, comment elle pouvait accueillir cet homme, le stress que ça pouvait créer. Également des dames qui retournaient à la maison systématiquement, ça c'est quelque chose qui a énormément marqué l'équipe du CHRS, du coup on est allé rencontrer d'autres partenaires. Et moi, j'ai remarqué, par exemple, ça, c'est les policiers qui m'ont raconté ça. Les policiers me disaient, mais vous savez, nous, sur notre fil de dossier, on a 80% de retour au domicile. Donc, ça nous a éclairé un petit peu sur le fait que c'était pas forcément dû au CHRS, il y avait beaucoup de retours au domicile. En gros, qu'est-ce qu'on loupait, mais c'était aussi quelque chose comme ça. Il y a très très longtemps, le procureur aussi, au niveau du tribunal d'Arras, qui lui annonçait pour ses dossiers plus de 90% de retour au domicile, en s'énervant, en disant qu'il n'était pas thérapeute de couple, qu'en gros, il se retrouvait face à des situations où il se heurtait sur la dynamique conjugale, sur ce lien affectif, et que celui-ci faisait obstacle à pouvoir exercer la justice telle qu'il entendait. Pareil, sur le tribunal de Béthune, des situations très ubuesques qui m'étaient racontées par des avocats, également par des substituts du procureur, qui sortaient après l'audience sur le parvis du tribunal, fumer leur cigarette, et qui voyaient, le tribunal de Béthune, vous avez un long escalier qui descend jusqu'à une place à la rue, et qui voyaient les prévenus qui sortaient avec une ordonnance d'éloignement du domicile parce qu'ils avaient frappé leur femme, et la femme qui arrivait avec la voiture, qui ouvrait la porte et qui faisait monter le mari et qui repartait comme ça. Et tout ça, finalement, posait plein de questions auxquelles on n'avait pas de réponse, puisque la seule réponse salutaire qu'on trouvait à ces situations-là, c'était d'essayer de les séparer le plus possible. Et qu'on avait... Alors, des fois où ça fonctionnait, hein, y a des séparations qui fonctionnaient, les femmes... reconstruisait une autre vie, etc. Mais il y avait quand même cette masse de retours au domicile qui nous perturbait finalement dans nos raisonnements. Ça a été une première chose qui, moi, m'a marqué comme jeune professionnel. J'étais assistant social et j'arrivais dans ces situations-là et je me posais beaucoup de questions. Et puis les expériences. C'est-à-dire que moi, pendant quelques années de ce travail-là, j'ai accompagné des dames qui venaient trouver refuge au centre d'hébergement. J'avais des situations qui m'arrivait. Donc le travail de l'assistant social en CHRS, c'est d'offrir un espace d'écoute et puis de mettre en route la machine de retour vers la vie normale, c'est-à-dire retrouver un logement, éventuellement impulser une formation, retrouver du boulot si ça manquait, apporter des outils de soutien à la parentalité s'il y avait besoin, parce qu'elles pouvaient arriver avec leurs enfants, bref. Et puis plein d'autres choses que j'oublie, mais tout un vaste champ un peu généraliste de réinsertion vers la vie classique dont on a tous besoin finalement. Le CHRS, c'est comme une pause dans une vie quand il y a eu un grave accident, quand il y a eu un échec, quand il y a eu un problème. Et là, on avait ces retours au domicile. C'est-à-dire que les dames venaient. Des fois, elles passaient juste une heure. Des fois, elles passaient une semaine. Des fois, elles passaient 6 mois. Elles retournaient avec leur conjoint. On les, voilà, on les voyait disparaître. Puis elles revenaient. Puis elles retournaient. On se posait beaucoup de questions. Et moi, jeune professionnel, j'avais vu que, en moi et en l'équipe, un risque, c'est que finalement, au début, on s'interrogeait sur nous, on se disait « mais qu'est-ce qu'on ne réussit pas pour qu'elle ne retourne pas au domicile revivre ces violences ?» Donc on s'interrogeait sur nos fonctionnements. C'est là où on a vu que ben, finalement, même les juges, même les procureurs se sentaient démunis, même la loi, qui n'arrête pas de se renforcer, n'indique pas ce phénomène-là. Il faut savoir que ça continue malgré le fait qu'on aggrave les peines, malgré le fait qu'on mette de plus en plus de dispositifs. Il y a du retour au domicile massif, il faut être clair. Et du coup, ça nous posait énormément de questions. Et de tout ça, moi, j'ai eu envie de faire quelque chose, parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y avait un risque. C'est qu'à partir du moment où on s'était dit, ben finalement, c'est pas nous qui échouons à construire quelque chose, le risque était grand qu'on se dise, mais c'est elles qui comprennent pas. Finalement, elles comprennent pas ce qui est bon pour elles, elles comprennent pas que c'est dans leur intérêt de se protéger, elles pour plein d'histoires, on avait plein de trucs, on avait à l'époque, en 2004, on avait, comme on ne comprenait rien aux violences conjugales, puisque c'est mis au jour que depuis les années 2000, donc c'est très récent, on avait inventé, alors c'est pas nous, hein, c'est des chercheurs avaient inventé le mot d'emprise, on disait voilà, c'est des femmes sous emprise, c'est pour ça qu'elles retournent au domicile. Un peu comme si c'était l'amour de cet homme était une drogue forte, vous voyez, qu'elle pouvait s'en passer un petit moment, mais ça revenait, c'était viscéral. Sauf que forcément, c'était un peu incomplet, comme on sent bien que c'est pas si simple que ça. Et puis nous, on voyait ces femmes-là, elles étaient toutes différentes. Il y avait des femmes qui étaient SDF, qui vivaient à la rue avec un conjoint. On a eu des femmes qui étaient, qui avaient des fonctions fortes de responsables d'entreprise, des femmes qui étaient médecins, des femmes qui étaient cultivées, des femmes qui avaient des responsables politiques, qui venaient ici à rechercher du secours, de l'écoute, etc. Et on voyait bien qu'elles n'étaient pas sous emprise, qu'elles n'étaient pas démunies dans ce lien-là, qu'elles avaient de l'aplomb, de la culture, une connaissance du caractère. Donc il y avait quelque chose qui nous échappait et quelque chose qui, moi, m'inquiétait très fort. Ça m'inquiétait très très fort parce que je me suis dit, on va finir par être violent. On va finir par dire, mais elles nous embêtent, ces femmes-là, parce qu'elles savent pas ce qu'elles veulent, parce que... Alors, à notre décharge, je sais que ça paraît un peu idiot, mais il faut comprendre que dans un CHRS, on manque de moyens, il faut être très clair. Le social coûte cher, mais le social est mal financé, voilà, c'est pas d'aujourd'hui, ça a été comme ça. Et que moi, j'avais des collègues qui prenaient en plus du temps pour... remettre en état une chambre, un logement pour les accueillir, et puis elle prenait possession du logement, elle repartait, il fallait remettre le lendemain parce qu'il fallait réaccueillir, parce que si malheureusement on avait un lit vide, on risquait d'avoir des finances qui baissent parce que on n'était pas assez rentable. Il y a toutes ces pressions économiques qui existaient déjà à cette époque-là. Malheureusement, ça s'est aggravé dans le secteur social, ça mériterait aussi d'être plus parlé. Parce que forcément, ça crée de la maltraitance. Hein. On voit beaucoup ça dans les EHPAD, où finalement, vous avez une pauvre aide-soignante qui se retrouve à gérer 40 personnes, et on voit ce que ça crée. Bref, on était vraiment dans ces choses-là. Et du coup, la pression financière, la pression sociétale, le fait que ces dames-là étaient en train de venir et de repartir, ça risquait de nous rendre un peu maltraitants, en se disant, mais on va plus les accueillir. Et on aurait fini par dire à ces dames, mais madame, choisissez. Si vous venez ici, c'est pour pas retourner avec lui et c'est tout. Tandis qu'aujourd'hui, on a bien compris que c'est un cheminement, on a bien compris que ce qui est facile à regarder chez l'autre, c'est compliqué pour nous, puisque si on s'interroge nous tous sur notre couple, on va trouver des motifs de séparer et des motifs de rester, et tout ça est toujours en mouvement, ça change, il y a des fois on est en colère, il y a des fois on est satisfait, il y a des fois on se dit « oh non, je vais rester ensemble », et il y a des fois on se dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» et ça varie tout le temps, et je parle de nous. Je parle pas des gens qui vivent, des couples difficiles. Donc, il faut comprendre que dans ces couples difficiles, ça s'est aggravé. Et du coup, pour éviter de devenir maltraitant, moi, je me suis dit, il faut que je m'attaque au sujet. C'est-à-dire que ça n'a jamais été un sujet de prédilection. Je me suis pas d'emblée dit, ce sujet-là m'intéresse, etc. Mais finalement, je dois beaucoup aux dames que j'ai accueillies, je dois beaucoup aux dames que j'ai accompagnées. Peut-être qu'elles m'ont plus accompagné que je les ai accompagnées. Elles m'ont accompagné à essayer de creuser ça. Et du coup, j'ai commencé à avoir envie de m'intéresser au sujet. Et ça a permis de commencer à développer Systémia, parce que finalement, À cette époque-là est arrivé un superviseur, c'est-à-dire quelqu'un qui prend soin de notre travail, qui essaye de nous interroger, qui prend soin de l'équipe. Et ce superviseur-là, qui s'appelle Jean-Pierre Brugnot, est quelqu'un qui était spécialisé sur les couples à transactions violentes. C'est quelqu'un qui travaillait le sujet depuis maintenant plusieurs dizaines d'années et qui est venu sur l'équipe pour travailler plein de choses, c'est-à-dire que comment nous on peut mieux travailler avec les familles autour de la violence intrafamiliale, mais également la violence conjugale. Et cet homme-là, quand il a commencé à nous expliquer comment ça fonctionnait, bah finalement, moi, j'ai fait plein de liens avec ces dames que j'accompagnais. Je me suis dit, bah oui, mais c'est ça, c'est parce que moi, jamais je n'évoque avec elles tout ce qui est de l'ordre de leur vie conjugale. Moi, je faisais des dossiers, j'essayais de voir devant, de dire, voilà, aujourd'hui, vous êtes hébergés ici, il faut que demain, on arrive à vous reconstruire une vie parce que vous me demandez à trouver un logement, vous me demandez à trouver du travail, etc. Donc moi, j'étais quelqu'un qui projetait vers l'avenir des choses. Et en fait, ces dames-là, elles avaient une partie de leur énergie, de leur vie qui était inscrite dans le passé, c'est-à-dire qu'elles étaient encore accrochées à des lambeaux de ce couple ou à ce couple. Et du coup, je me suis autorisé tout doucement à rentrer dans la discussion de... Ben c'est quoi ces histoires finalement de couple? Qu'est-ce que c'est qu'un couple qui peut tout d'un coup verser dans la violence? Et là, j'ai découvert énormément d'histoires de liens affectifs. En fait, j'ai compris, difficilement, parce que ça m'a heurté énormément, mais j'ai compris qu'il y avait malgré tout de l'amour. Et qu'elle finissait par me dire, mais il n'est pas tout le temps violent. Elle finissait par me dire, mais c'est un bon père. Elle finissait par me dire, mais quand il n'a pas bu, etc., etc. Et non pas que j'étais d'accord, mais je me suis dit, même si tu n'es pas d'accord, il va falloir que tu ailles comprendre ça. Il va falloir que tu ailles te documenter. Et c'est là où j'ai commencé une formation longue de thérapie conjugale et familiale pour travailler ce fameux lien. Une formation d'analyse en systémie, c'est-à-dire quelque chose qui travaille sur mais c'est quoi un lien? Qu'est-ce qui fait que nous, les êtres humains, on peut pas vivre seul? Qu'est-ce qui fait que c'est dans le regard de l'autre qu'on a notre humanité? Ou alors où on est dû déshumaniser, c'est-à-dire on est regardé comme des handicapés, pas comme des personnes normales, on est regardé comme des Arabes, pas comme des Français, on est regardé comme des femmes, pas comme complètement un être humain, puisqu'une femme, etc., etc. Et c'est toutes ces histoires-là qui m'ont intéressé. Et du coup, avec l'accord de monsieur Marc Demanze, le directeur de l'association, avec le soutien de Jean-Pierre Brugnot, avec une collègue qui s'appelle Stéphanie Pillon, qui travaille à l'accueil de jour aujourd'hui pour ces femmes qui vivent des violences conjugales, on a commencé à réfléchir et depuis 2004-2005, on a commencé à développer des petites actions et petit à petit, ces gens sont venus nous proposer, à travers ce qu'ils nous racontaient de ce qu'ils vivaient, de plus en plus de développer d'outils et c'est là où on a commencé à se rendre compte qu'il y avait toute une partie des couples à transactions violentes qui étaient pas dans des situations d'emprise mais dans des situations de destruction totale et là il fallait absolument agir parce qu'il y avait une envie des deux que ça change, différente, mais au moins il y avait une envie des deux. Et pour ces couples où il n'y a pas une envie des deux, il y a une envie que d'une personne que ça change, ben, il fallait l'aider, non pas en lui faisant peur, non pas en décidant pour elle, mais vraiment en étant excessivement souple, l'aider à cheminer, à sortir de ça petit à petit, avec tout un travail, avec énormément d'énergie, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le plus. Donc nous, on arrive à proposer cette palette-là, et puis on a fini par ouvrir Systémia, qui se base sur cette idée-là, c'est de travailler toutes les situations de violence, quelles qu'elles soient, dans l'intérêt et sous le haut pilotage des personnes. C'est ça qui est important.
Love you. till death do us part.
Les violences conjugales touchent tout le monde, la preuve avec cette chanson de Madonna, Till Death Do Us Part, extrait de l'album Like a Prayer qui raconte son divorce avec Sean Penn et où elle évoque les violences, les ecchymoses qui disparaîtront, les cris et les vases qui volent, tout cela entre guillemets. On continue de parler des violences conjugales sur Radio Plus avec Laurent Lyotard, responsable de Systémia à Lens, centre ressources et lieu de thérapie consacré à ces violences.
Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes victimes de violences conjugales qui sont accueillies chaque jour dans vos locaux ?
Alors, moi, je vais parler de Systémia. À Systémia, on est autour de... en accompagnement pur, c'est-à-dire que je parle plus que de l'accueil. Hein. C'est-à-dire des gens qu'on va voir plusieurs fois, avec lesquels on va tisser un lien, avec lesquels une histoire se construit, où on va devenir un lieu ressource. On doit, grosso modo, tourner autour de 500 personnes. Voyez. Et puis après, on a tous les accueils ponctuels, parce qu'il y a des gens qui ont juste besoin d'un petit service ou d'un petit renseignement. Et là, par contre, ces personnes-là, nous, on ne les comptabilise pas parce qu'elles sont trop nombreuses. Hein. Ça peut être via les communications téléphoniques, via les mails, ou un déplacement physique. Et là, je ne saurais pas vous dire, mais voilà, ça représente aussi une masse de gens qui, des fois, vont revenir l'année prochaine avec le besoin de travailler plus, mais voilà. Et là, je ne suis que sur Systémia, il y a aussi le centre d'hébergement, il y a aussi les accueils d'urgence, il y a aussi les nuitées d'hôtel, et tout ça représente également un nombre considérable de personnes qui, finalement, vivent des violences. Et après, je vous épargne aussi ce qu'on pourrait comptabiliser au sein du réseau qui concerne l'arrondissement de Lens, où là, malheureusement, les chiffres explosent, parce que, bien évidemment... toutes les situations de violence conjugale de l'arrondissement de Lens n'arrivent pas à Systémia. Il y a des gens qui trouvent des solutions autre part, et c'est bien. Finalement, si elles trouvent leur solution, c'est bien que ce soit à Systémia ou ailleurs, mais ça représente beaucoup, beaucoup de personnes. Le souci, c'est que c'est difficile à quantifier parce qu'on n'a pas les moyens de mesurer. On n'a pas les moyens techniques et on n'a pas les moyens financiers de prendre le temps de réellement mesurer tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est qu'entre le chiffre officiel qu'on essaye d'appréhender, que ce soit les pouvoirs publics, les collectivités locales, les associations et autres, et le réel chiffre, on est sur un delta de x10. Et d'ailleurs, c'est l'enquête en VEF de 2000 qui l'a très bien expliqué, puisque tout d'un coup, cette enquête, en fait, c'était une enquête téléphonique à plus de 6000 femmes. À l'époque, on a interrogé les femmes. Et on s'est rendu compte qu'il y a une femme sur 10 qui déclarait vivre des violences au sein du couple. Une femme sur 10. Donc si vous prenez le nombre de femmes de l'arrondissement de Lens, vous pouvez facilement extrapoler à une femme sur 10. Et là, on peut commencer à être abasourdi par ce chiffre. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes en danger imminent, mais ça veut dire que, finalement, je vais le dire avec mes mots à moi, ça veut dire que finalement, Walt Disney a fait beaucoup de dégâts. C'est très paradoxal de dire ça. Je pense que c'est chouette le couple. Je pense que c'est important d'aimer dans sa vie, parce que sinon, nous ne sommes que des organismes qui mangeons, dormons, etc. L'amour, c'est quelque chose qui sublime. C'est essentiel. Mais je crois qu'il faut arrêter de penser que l'amour, c'est acquis et que ça fonctionne tout seul. L'amour, c'est un travail. L'amour, c'est quelque chose qui doit être tous les jours remis en question. Et ça, autant on apprend à compter, on apprend à écrire, on apprend... l'histoire de France, etc. Mais moi, je plaide très fort pour qu'on puisse apprendre à nos jeunes générations à aimer dans le respect l'autre, c'est-à-dire travailler l'altérité, et puis aussi aimer du lien affectif. On a beaucoup avancé. On parle de sexualité dans les écoles. C'est une vraie révolution. Avant, on n'en parlait même pas. C'est-à-dire qu'on lançait des jeunes adultes se débrouiller dans l'inconnu. On avance. On est vraiment au tout début. Voilà, 2000, 2019. Il y a eu 19 ans de passé. On a tout à créer, on est, vous imaginez, comme si la médecine avait 19 ans de carrière, tout est à découvrir. Mais je pense que, voilà, je pense qu'à travers ce que vous proposez, c'est-à-dire de pouvoir ouvrir au public, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Je milite pour que tous ces maires de communes qui se battent pour Voilà, quand ils marient des gens, essayent de mettre en place des stages autour de la conjugalité, des temps d'écoute. Bah voilà, vous allez vous marier, mais est-ce que vous avez une idée de ce que ça implique? Vous allez vivre à deux. Qu'est-ce que ça veut dire vivre à deux? Gérer le quotidien. Il y a des fois où vous n'allez pas avoir envie de vous aimer. Il va falloir supporter ça. Avant, c'était contenu par le mariage avec toute l'horreur que ça a pu être. C'est-à-dire qu'on divorçait pas. C'était tabou. On avait mis un socle dessus. Aujourd'hui, c'est public. Les gens doivent être heureux à deux. Je pense que la société se doit d'accompagner ça.
Est-ce que vous parlez également de une sorte de tyrannie du fait de, d'être heureux à tout prix?
Ah oui, l'injonction au bonheur, ça y est. Ça y est, parce que c'est vraiment... C'est intéressant, parce que c'est une question très pointue. C'est vraiment très récent qu'enfin, nos chers penseurs, nos chers chercheurs sont en train de se dire « Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre dans le mur ?» C'est-à-dire que... Enfin, du monde de la psychologie, du monde de la sociologie, du monde de l'anthropologie, du monde de tout ce qui est les sciences humaines, on est en train d'avoir des gens qui sont en train de faire des recherches en disant « Mais attention à cette volonté d'accéder au bonheur. » C'est un peu, malheureusement, le sursaut du syndrome Walt Disney, c'est-à-dire que, eh ben, non seulement on va se mettre en couple, et on va être heureux jusqu'à la fin de nos jours, hein. C'est ça l'injonction, c'est-à-dire qu'on va tout le temps être heureux jusqu'à la fin de nos jours, et en plus on va faire plein d'enfants, histoire d'être sûr d'être heureux, vous avez compris le paradoxe, hein. Plus on fait d'enfants et plus il y a de travail, bien évidemment. Donc suite à ça, on a même rajouté cette idée de on va être heureux et on va y arriver, et chacun va être pleinement heureux dans sa vie, et là on confond ce que c'est que d'être heureux, le bonheur, et ce que c'est que la vie à long terme. C'est-à-dire que la vie, c'est un tas d'embrouilles, c'est un tas de difficultés, c'est le quotidien, c'est les maladies, c'est le chaos du quotidien. Il faut comprendre que la vie, c'est un chaos. Heureusement, on est des êtres civilisés, on essaye de stabiliser ça, mais ça reste un chaos. La preuve, c'est que finalement, aujourd'hui en France, on meurt plus de violence entre nous que d'autres choses, hein. La famille est devenue un... Et repéré maintenant comme un lieu à haut risque, hein, entre l'inceste, les violences, etc., etc., les brimades. On en est à légiférer sur la fessée, par exemple, vous voyez, on en est là. Et en même temps, cette injonction au bonheur, elle nous rend fous, puisqu'elle nous oblige à réussir, et que dans cette société de l'hyper-compétitivité, dans cette société de l'excellence, où finalement, si tu y arrives dans ta vie, c'est que t'es bon, si tu y arrives pas, c'est que t'as mal fait ce que tu devais, cette injonction à ce que l'individu y arrive par soi-même nous met dans une folie qui va devenir de plus en plus forte, parce que finalement, les gens qui ont échoué deviennent aigris, et donc deviennent agressifs, parce que c'est très difficile de vivre avec l'idée qu'on est responsable de son échec. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que la société n'épargne pas les gens et qu'on a toujours besoin de gens au chômage qui souffrent. Ça s'appelle l'armée de réserve en économie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Que finalement, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi les penseurs. Le bouc émissaire, il a une fonction dans notre société. Je crois que c'est un travail qu'on doit faire en collectif et certainement pas en individuel, mais en effet, on a poussé, peut-être parce que le libéralisme nous a fait croire qu'on allait tous devenir riches, beaux, intelligents, etc., etc. Voilà, on est aujourd'hui dans... Et c'est un vrai sujet, on est vraiment dans une erreur. Et par exemple, on a une injonction à être heureux en couple, c'est-à-dire que ça, c'est la folie du moment. On a le droit de tomber amoureux de n'importe qui, mais à partir du moment où on se met en couple, on doit pas se tromper. On doit être heureux. On doit réussir. Ah, ben ouais, mais alors, ça veut dire que tu choisis mal ton conjoint. Mais qu'est-ce qui fait que t'as fait cette erreur-là? Enfin, excusez-moi, mais c'est un casting difficile que de trouver l'autre, surtout dans un espace sociétal aujourd'hui où on a l'autorisation de se séparer et des facilités malgré tout, même si ça reste très difficile de se séparer. C'est quand même beaucoup plus facile qu'avant. Et du coup, toute cette culpabilité à dire « oui, mais alors ça veut dire que je me suis trompé, ça veut dire que j'ai fait le mauvais choix, ça veut dire que j'ai un problème ». Moi, j'ai des dames qui viennent me dire en disant « mais qu'est-ce que j'ai un problème, je vais finir bonne sœur parce que à chaque fois que je choisis un homme, je tombe sur quelqu'un de violent ». Si c'était si simple que ça, ça saurait bien évidemment que c'est plus complexe. N'oublions pas qu'on ne sait pas grand-chose finalement du fonctionnement humain, et c'est pour ça que l'injonction à réussir, l'injonction au bonheur, c'est un piège. C'est un leurre et ça va nous rendre fous, c'est certain.
Chaque jeudi matin, à partir de 9h, Radio Plus vous propose des magazines et reportages. Vous faites partie d'une association ? Venez partager vos activités. N'hésitez pas à nous contacter au 09 52 22 22 07 ou sur contact@radioplus.fr.
À l'instant, Laurent Lyotard, le responsable de Systemia, centre thérapeutique et centre ressources sur les violences conjugales, situé à Lens, qui répondait à nos questions. Un entretien que nous poursuivrons la semaine prochaine d'en savoir plus, puisque beaucoup de questions n'ont pas encore été posées. On abordera notamment la question du Grenelle des violences conjugales, auquel participe Systemia. On parlera des premières mesures qui ont été annoncées par le gouvernement il y a quelques semaines, sachant que les résultats de ce Grenelle seront rendus publics le 25 novembre prochain, soit le même jour que la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. C'est la fin de votre émission, Savoir Plus, je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la suite de vos programmes avec le Flash Info à midi, suivi des routes de l'accordéon, en compagnie de Christophe Grébert. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Plus.